France Inter.
Grand Prix. J'ai jamais vraiment suivi parce que j'y connaissais rien, mais je dirais que j'ai commencé vraiment avec Drive to Survive sur Netflix. C'est un peu cliché, mais c'est vrai.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode de Zoom Zoom Zen qui, si j'avais accepté de suivre les conseils en jeu de mots de Cyril Lacarrière, notre rédac chef, aurait dû s'appeler Vroom Vroom Zen. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au grand étonnement d'Adèle Van Rett, notre patronne, qui nous avait donné pour cahier des charges de zoomer sur des expressions dans l'air du temps, nous allons aujourd'hui parler Formule 1. En quoi la Formule 1 et plus bancale encore l'expression Grand Prix retenue pour notre émission du jour peuvent-ils répondre de près ou de loin au cahier des charges de cette émission ? À ce stade, je n'ai pas de réponse satisfaisante. Outre que, depuis des mois maintenant, Cyril et Quentin nous bassinent avec leur passion pour la F1, découverte comme tout le monde de manière très originale avec les séries Drive to Survive sur Netflix, ce qui ne les empêche pas de se prendre pour des aficionados éclairés du sport automobile, qui depuis des mois font donc pression pour qu'on consacre un numéro de Zoom Zoom Zen à la Formule 1. À un moment, j'ai bien été obligé de céder. D'autant que oui, la F1 dit quelque chose de notre époque, c'est plus qu'un sport, un laboratoire technologique. C'est souvent pour la F1 que sont développés les systèmes, les aides à la conduite, les matériaux que vous retrouverez un jour sur votre Clio, ou presque. Exemple, les palettes au volant dites Manettino sur la première Ferrari de Cyril Lacarrière en 98 venaient directement de la Formule 1. Alors, qu'est-ce qui vous attend demain sur votre Ferrari ? Pourquoi la F1 est-elle redevenue tendance ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et avec nous cet après-midi pour nous décoder le monde de la Formule 1, celui qui la connaît par cœur, il est très heureux d'être avec nous, presque aussi excité que le jour où Pierre Gasly a remporté un Grand Prix.
Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française.
17 bouteilles de sirop à la cortisone plus tard. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour Julien Febrault.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Merci d'être là. Vous êtes journaliste, journaliste sportif et les amateurs de F1 vous connaissent maintenant très bien puisque vous êtes la voix de la Formule 1 depuis maintenant 10 ans sur Canal+. Mais ça Julien, je dirais que c'est presque anecdotique. Ce qui compte sur votre CV et sur votre profil LinkedIn, et je dois dire que je suis surpris que ça n'apparaisse pas en premier dans votre bio Twitter, vous êtes un ami personnel de Quentin Lui. Enfin, c'est comme ça en tout cas que lui nous l'a présenté. On aura l'occasion dans cette émission de découvrir que cette belle bromance est largement unilatérale. Alors, justement, Julien, je vous présente mes équipiers face à vous. Donc, il avait le physique pour le sport automobile ou l'équitation. Il a fait de la MotoGP à un niveau indéterminé. Il se rêvait au volant d'une monoplace de 800 chevaux. Il a fini au volant d'une 208 France Bleu HDI, avec laquelle il a quand même réussi à se prendre une prune.
Ah, bravo.
Passion de la vitesse quand tu nous tiens. Bonjour, Quentin Lui.
Bonjour, je suis pas le seul à prendre des prunes autour de cette table. Prévé de joke.
Oui.
Avec qui ?
Ah, ça, déjà des dossiers, très bien.
Ah oui, vous, Julien, ça vous arrive, vous dépassez un peu les limites ?
Quelquefois, oui.
C'est à force de voir des voitures qui vont très vite.
Ben oui, c'est. Mais je me contiens. Et j'ai récupéré mes 12 points et j'en suis très fier.
Ah bah ça, on vous dit bravo. Déjà, est-ce que vous reconnaissez Quentin Lui ?
Absolument, je le connais, je le reconnais. Et on s'est tout de suite reconnus à notre passion sur un circuit. On s'est rencontrés sur le circuit des 24 heures du Mans.
Oh mon Dieu !
Ça s'invente pas.
On en reparlera.
Ça s'invente pas.
On est passé des choses en marge de ces 24 heures du Mans. Quentin, vous avez deux passions, Charles Leclerc et les passants. Comme Julien, en dépit du fait qu'il est votre meilleur ami, ne vous a jamais invité sur un Grand Prix, vous vous contentez pour l'instant des passants à qui vous demandez ce qu'ils pensent de notre sujet du jour. Alors, les Grands Prix ont-ils le vent en poupe ?
Mais oui, et c'est dû à un alignement de planètes autour de ce sport mécanique et ça se remarque aussi dans la rue. La F1 et les sports mécaniques sont devenus presque branchés, c'est-à-dire que ceux qui me chambraient il y a 10-15 ans quand je leur parlais du Shifter Pro révolutionnaire d'Honda, eh bien le scande aujourd'hui en écoutant SCH, c'est quand même incroyable,
c'est vrai.
La roue tourne et aussi vite que sur un circuit.
Oh, magnifique, voilà. Il a soigné son lancement spécialement aujourd'hui. À vos côtés, Julien, elle aussi n'a pas manqué un épisode de Drive to Survive. Elle aussi a un faible pour Charles Leclerc, mais pas que sportivement.
Thomas.
Une journaliste extraordinaire dont on s'étonne que son nom ne figure pas dans le classement Forbes des 30 under 30, hein, les 30 personnalités qui comptent et qui n'ont pas 30 ans. Alors peut-être déjà parce qu'elle a plus de 30 ans, ça peut jouer.
Son influence
est pourtant considérable puisque selon une rumeur essentiellement auto-colportée, elle aurait inventé avec son pote Emmerich des expressions expression aujourd'hui entrée dans le langage des Parisiens branchés, comme B de bail, expression qu'elle aurait déposée à l'INPI. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour Mathieu.
Ça c'est émouvant, ça fait quoi comme ça de donner le tempo de la langue française?
Non mais en fait ça m'énerve que personne me croit, alors que j'ai quand même, je suis tombée sur une vidéo TikTok avec mon ami Aymeric où il y a un petit saison qui dit B de bail et c'est quand même notre expression quoi.
Mais c'est votre expression, bah, vous l'aviez peut-être entendu quelque part et reprise. Non, c'est votre expression.
Non,
on peut savoir ce que ça veut dire.
Ça veut dire
B de bail, c'est pour dire au revoir à quelqu'un, vraiment B de bail.
Le B du mot bail.
Au revoir, trop compliqué. B de bail.
Exactement. On va pas vers la simplification, on va vers la complexification avec cette génération. Alors maintenant, outre réinventer la langue française, vous passez également pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a retenu votre attention aujourd'hui?
Alors je vais vous parler d'applications de rencontres, mais attention, pas n'importe lesquelles, des applications de rencontres pour se faire des amis, Mathieu. Oui, ça existe et ça marche. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Vers 16h30, on testera nos connaissances en matière de Formule 1 et peut-être aussi en matière de Quentin, lui, en ce qui concerne Julien Febraud. En fin d'émission, Yann Marguet nous dira s'il aime lui aussi la F1. Vous, Julien Febraud, déjà, est-ce que vous êtes un passionné de toujours ou finalement, il n'y a pas si longtemps que ça que vous avez découvert la F1?
Non, passionné de toujours, de sport automobile d'abord, par mon papa, qui était pilote auto-amateur. Donc quand, dès le plus jeune âge, vous suivez votre papa sur des courses, que vous traînez dans des paddocks avec plein d'autres fils de pilotes automobiles qui sont aujourd'hui mes adversaires quand je fais de la course automobile, ce qui est très drôle. Moi, mon premier souvenir d'être vivant, je dois avoir à peine 3 ans et on me confie un chewing-gum à mâcher parce que mon papa vient d'avoir un accident sur la piste et son radiateur est endommagé et donc à l'époque, dans les années 80, on colmate les fissures du radiateur au chewing-gum et on me dit tiens Julien, mâche, mais par contre, faut rendre le chewing-gum, ce que j'avais pas envie de faire. Mais j'ai encore le goût du chewing-gum dans la bouche, en tête. Donc ça, c'est mon premier souvenir d'être vivant et c'est lié au sport automobile. Donc je pouvais pas faire autrement.
À l'autre bout de la table, l'homme qui a voulu cette émission, d'une part pour sensibiliser les auditeurs d'Inter à la magie de la F1, d'autre part dans l'espoir que Julien lui file 2 places pour le Grand Prix de Monaco. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Chaque après-midi, c'est vous qui nous racontez les origines de notre mot du jour. Alors d'habitude, vous n'y connaissez rien, vous devez tout checker 2 fois sur Wikipédia.
Pareil.
Aujourd'hui, c'est différent. Hein, vous êtes compétent.
Je sais pas, on va voir.
Les Grands Prix, d'où ça sort?
Nous sommes le 19 mai 1950, circuit de Silverstone en Angleterre. 5 écuries sont au départ, pas la mythique Scuderia Ferrari, 24 pilotes au volant.
Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Le vainqueur de ce tout premier Grand Prix de F1 est italien, Emilio Giuseppe Farina, surnommé Nino Farina. C'est lui aussi qui sera le tout premier champion du monde de F1. C'est au volant d'une voiture de Farina que Farina se tuera 16 ans plus tard, mais pas sur un circuit. Sur une route française, il perd le contrôle de sa Ford près d'un village en Savoie. Après Farina, la F1 connaîtra le règne de l'idole argentine, Juan Manuel Fangio, champion du monde en 51, 54, 55, 56 et 57. Il faudra attendre 2002 et un autre champion hors norme, Michael Schumacher, pour qu'un pilote égale ce record. Schumacher aura récolté 7 couronnes tout au long de sa carrière, comme Lewis Hamilton. Julien Febraud, si vous aviez pu commenter une autre époque de la F1 que celle-ci, laquelle vous auriez choisi?
J'hésite entre les années 70, les époques notamment de Jackie Stewart par exemple, les époques un peu plus proches des années 80 de Niki Lauda, mais au final, allez, je dirais les batailles Prost-Senna, parce que c'est Alain Prost que j'ai commencé à suivre, et effectivement, Prost-Senna, ça devait être quelque chose d'extraordinaire à voir.
Mais alors Cyril, la course automobile n'est pas née avec la F1, ça vient d'où cette idée?
Eh bien ça vient de la tête d'un journaliste anglais, John Gordon Bennett, par ailleurs propriétaire du quotidien américain New York Herald. C'est lui qui en 1899 imagine une course automobile sur un circuit fermé. La première compétition du genre se déroule l'année suivante, nous sommes en 1900, 51 ans donc avant le départ du Grand Prix de Silverstone. Une compétition internationale limitée à 3 voitures par pays et ça s'appelle la Coupe Gordon Bennett. Et c'est un Français qui l'emporte. Julien, si vous connaissez son nom, je vous laisse offrir un point bonus à Manon ou à Quentin au moment du Zoom Zoom Test. En revanche, si vous ne savez pas, c'est un point en moins pour Quentin.
C'est normal.
Une sanction, sanction purement arbitraire parce que vous êtes copain.
Allez Julien.
Je n'ai pas la réponse à cette question, donc je vais planter...
Ça commence mal, cette question.
Et quand le nom va être prononcé, je vais évidemment dire « Ah mais oui, bien sûr !»
Fernand Charron.
Ah oui, Charron.
Mon père était Charron. Je ne connais pas du tout.
C'est
non plus.
C'est comme ça, Cyril. De la batte. Ouais.
Merci Cyril pour cet éclairage historique. Julien Febraud, la saison de F1 a repris la semaine dernière à Bahreïn. C'est Max Verstappen qui l'a remporté. Alors on va rester dans l'actu. Pour cette saison 2023, il faut s'attendre à quoi?
Alors, il faut s'attendre, on va pas se mentir, à une domination de Red Bull et de Max Verstappen, qui est le champion du monde en titre et qui part sur les mêmes bases d'efficacité que l'an dernier. Pour autant, derrière, on assiste à quelque chose d'un peu révolutionnaire, puisque Fernando Alonso, qui est le doyen des pilotes de Formule 1, il a 41 ans, ce qui, à l'échelle de la F1, est un âge bien avancé. Je pense qu'il a tous ses trimestres, mais en tout cas, lui, il est toujours là et il est au volant d'une nouvelle voiture, l'Aston Martin, qui était quasi inexistante l'an dernier et qui est montée sur le podium le week-end dernier en battant les Ferrari, en battant les Mercedes d'Hamilton et Russell notamment. Donc ce vieil Alonso est peut-être en train de créer la surprise dans cette saison.
L'Aston Martin qui n'a pas un moteur Aston Martin.
Pas du tout.
Et c'est ça qui est choquant Mercedes. Pour moi. Pour
les en Formule 1, il y a des motoristes et des écuries et certains motoristes équipent leurs adversaires. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un moteur Mercedes dans cette Aston Martin et qu'ils ont battu l'écurie Mercedes, ce qui est très vexant pour la firme à l'étoile.
Alors lui aussi, il est passionné de Grand Prix, mais contrairement à Quentin, si jamais il veut rencontrer Charles Leclerc, il lui suffit de lui passer un coup de fil et lui dire « Coucou, c'est Benjamin Biolay ». On écoute Grand Prix sur France Inter. Julien Febrault, on vient d'écouter Benjamin Biolay qui avait dédié son album Grand Prix au jeune pilote français Jules Bianchi, mort à 25 ans lors du Grand Prix du Japon. Quand un artiste comme Biolay s'empare du thème de la F1, ça montre bien que ce sport a retrouvé tout son glamour. Est-ce que vous constatez une évolution depuis par exemple le début de vos débuts en tant que commentateur de la F1 et aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il y a une évolution. Ça avait plusieurs étiquettes. La F1 avant, c'était le sport plutôt de papa. Oui. C'était un sport de niche, un sport de riche. Alors ça l'est toujours parce que la F1 génère énormément d'argent, fait circuler beaucoup de finances. Mais aujourd'hui, c'est un sport tendance, branché. C'est bien, c'est de bon ton de regarder la F1 entre guillemets. Mais c'est surtout un sport qui s'est ouvert. Il faut savoir que la F1 a été rachetée en 2016 par des Américains et qui ont décidé d'en faire un show à l'américaine. Alors c'est cliché, mais eux, ils veulent un week-end de Super Bowl tous les week-ends de F1. Donc beaucoup plus accessible sur les plateformes, sur les réseaux. Ils ont multiplié les nouvelles caméras qu'on trouve dans le casque des pilotes, donc on voit ce que voient les pilotes sur le pédalier des Formule 1. Donc, et la technologie et la volonté de ce groupe Liberty Media de rendre la F1 très spectaculaire, et la série Netflix, je sais qu'on va en parler, elle est venue aussi de cette initiative, donc de démocratiser la F1 et que tout le monde puisse se rendre compte que bah ouais, ce sont des jeunes qui aujourd'hui la plupart font de la Formule 1, mais des jeunes comme vous et moi, et qui sont très intéressants à suivre, notamment Charles Leclerc.
Ah, le fameux Charles Leclerc.
Parlons des audiences de Canal qui sont assez dingues sur la Formule 1 maintenant. 2,33 millions de téléspectateurs, c'était le pic pour la bataille finale entre Hamilton et Verstappen. Ça, c'est des chiffres que vous regardez. On sait que sur Canal, on ne regarde pas autant les audiences que sur d'autres chaînes, mais est-ce que maintenant, vu ces audiences, vous regardez la courbe à chaque fois
Bien sûr qu'on les regarde. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne sur Canal, c'est 1 200 000 abonnés qui regardent chaque Grand Prix. Donc moi, à mon niveau à moi, je trouve ça génial parce que c'est ma passion et j'ai envie de la partager avec un maximum de personnes. Donc oui, on a doublé nos audiences ces dernières années. Et surtout, on assiste, mais ça c'est véridique, à une féminisation du public.
Ça c'est
très important. Et un rajeunissement aussi. Donc ce qui était le sport de papa, comme on disait il y a quelques instants, est aujourd'hui un sport de jeunes, un sport dont on parle à l'école. Et je vois des jeunes qui regardent en cours, c'est pas bien les jeunes, hein, mais je reçois des screenshots de jeunes qui, pendant les cours, sur MyCanal, regardent les séances d'essai le vendredi. Mais voilà, ça s'est rajeuni et féminisé. Donc pour une chaîne de télé, c'est formidable.
Alors rajeuni, on peut voir pourquoi. Pourquoi féminiser? Est-ce que vous pensez que la série dont on parlait, Drive to Survive sur Netflix, a joué dans le sens où peut-être certaines filles se sont laissées embarquer par le côté la narration exceptionnelle de cette série et ensuite ont goûté à la F1.
Faut poser la question à ces demoiselles et
petit
à ces dames.
Manon, qu'est-ce que vous en pensez?
Après, on a suivi ça vraiment comme une série. Enfin, moi, en plus, je les connaissais pas du tout, les pilotes, quand j'ai commencé. Et c'est vrai qu'on s'attache aussi aux personnalités. On a l'impression de voir, c'est pas des acteurs, mais de voir des personnages auxquels on s'attache.
Mais justement, est-ce que c'est pas un peu trop scénarisé? Ça reste un documentaire, mais est-ce qu'il est pas monté d'une certaine manière qui vous agace, vous, spécialiste de la F1?
Alors, j'irai pas jusqu'à l'agacement, mais évidemment, mon côté journalistique me fait par moments tiquer en disant oulala, là, il y a chronologiquement, c'est pas juste, géographiquement, c'est pas juste. Encore une fois, je suis pas la cible directe de ce programme, mais on va quand même reconnaître à ce programme d'avoir ouvert les portes de la F1 au monde entier. Mais oui, il y a un peu de drama volontairement appuyé. C'est le jeu de la série. Quand on va la regarder, on sait ce qu'on va y trouver.
Le patron de Mercedes dit d'ailleurs c'est plus Top Gun qu'un vrai documentaire.
Ouais, c'est bien. Mais tant mieux.
Manon.
Mais est-ce qu'il y a des comportements justement qui ont changé des pilotes, des gens dans les écuries depuis Netflix?
Alors, les pilotes, je pense pas qu'ils aient changé de comportement. Certains se sont méfiés de ce programme, notamment Max Verstappen, qui l'an dernier ne souhaitait plus leur répondre parce qu'il n'aimait pas la dramatisation qui était faite, et puis qui finalement est revenu un petit peu en arrière à certaines conditions. Et puis ça a fait émerger des personnages, véritables personnages. Gunther Steiner, qui est le patron d'une écurie américaine qui s'appelle Haas, est devenu une méga star parce que c'est cet Américain à l'accent allemand qui ne fait que jurer, donc les Américains sont obligés de biper à peu près un mot sur deux et qui fait énormément rire, et clairement il en joue aujourd'hui, et j'étais avec lui à l'aéroport en quittant Bahreïn l'autre soir, les gens couraient sur lui plus que sur les pilotes, quoi. Donc il en joue.
Est-ce qu'on va avoir un problème de décalage et de frustration aussi du téléspectateur entre la fiction Netflix qui est très rythmée et une saison de Formule 1 qu'on sait qui peut parfois être monotone? On a eu Schumacher, Vettel, Hamilton. Là on rentre peut-être dans une ère Verstappen où il va peut-être beaucoup gagner et donc moins d'action sur la piste.
Je crois pas, parce que déjà, alors là ça va être le moment auto-promo, mais depuis 10 ans on fait ce que Netflix veut faire, c'est-à-dire de l'inside. Nous, notre maître mot depuis 10 ans, c'est immerger au maximum les gens qui nous suivent. Donc ça, on le fait depuis 2013, donc on continue de le faire, on continue d'expliquer l'envers des choses et de montrer l'envers du décor à nos abonnés. Donc ça va continuer. Il y a plein d'histoires dans l'histoire en Formule 1. C'est quand même ce qui est bien avec un sport à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a énormément d'histoires dans l'histoire. Peut-être que la plus intéressante, c'est qui va être champion du monde. Je suis entièrement d'accord, mais il y a vraiment d'autres choses à montrer, à raconter.
Alors, Julien Febron, on parle, mais n'oublions pas que votre meilleur pote est là, votre BFF, il s'impatiente et il en a des trucs à dire sur la F1, lui qui nous en parle tous les matins. Quentin, lui, votre job, c'est d'aller sur le terrain à pied, hélas, pour l'instant, et de tendre votre micro inter aux passants. Alors, la Formule 1 est-elle vraiment autant le vent en poupe que ça?
On va aller le vérifier. Un micro France Inter à la main et une pancarte où l'on pouvait lire...
Grand Prix de la Formule 1. J'ai récemment vu Le Mans 66, le film avec Matt Damon et Christian Bale. Ça m'inspire et de la fascination et une incompréhension totale. Je me dis que technologiquement, c'est un truc de fou. Et en même temps, vraiment, je trouve ça débile. Regarder des voitures tourner en rond sur un circuit, au bout d'un moment, c'est...
Ah bah, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu le but. C'est vrai que tourner en rond sur un circuit, c'est un peu aussi l'histoire de la Formule 1. Mais je sors l'arme fatale depuis 5 ans, la bande-annonce de Drive to Survive sur YouTube.
In Formula One. Ah oui, Formula One. Bon, ça marche, hein. Ça marche très bien cette série. Alors moi, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, je sais pas pourquoi je regarde, mais je trouve ça génial.
Pourquoi ?
Il y a un truc un peu antique. C'est un peu une joute de gladiateur, super masculinisant, masculinité premier degré. Et en même temps, il y a Lewis Hamilton là-dedans qui est là, qui porte des propos hyper politiques. Je sais pas, ça... moi j'aime bien les gens qui sont passionnés par des trucs absurdes, donc c'est... je peux regarder ça.
Un peu plus loin, je rencontre cet homme, la cinquantaine, coquet, chic, le manteau long, gris clair.
Coquet, vous l'orthographiez comment ?
Non,
c'est... D'accord, très bien, j'ai eu peur, il faut préciser.
D'accord, à qui je fais lire ?
Coquet. Grand Prix, évidemment, c'est soit un Grand Prix équestre, soit un Grand Prix automobile. Et soit un grand prix littéraire aussi. J'aime beaucoup les chevaux, j'aime beaucoup les courses automobiles et j'aime beaucoup la littérature.
Les trois. Hervé, est-ce que vous avez des souvenirs, des noms qui vous reviennent à la lecture de ces deux mots grand prix ?
Oui, bien sûr. On pense à Ayrton Senna, des pilotes mythiques qui ont particulièrement marqué l'histoire de la Formule 1. On pense aussi aux premières 24 heures du Mans, l'époque des voitures françaises comme Alpine Renault avec Jean Rédélet. Il y a toute une histoire qui a su s'adapter, a su évoluer et a su toujours montrer cette alliance unique entre la technologie automobile de pointe et de vitesse et ce qui reste encore à la main de l'homme.
À ce moment précis, un jeune arrive vers moi, il a remarqué le micro France Inter.
Excuse-moi, tu bosses à France Inter ?
Ouais.
Je suis le fils de Nicolas Demorand, de la matinale.
Mais non !
Bah, c'est mon père, quoi.
T'as quel âge ?
J'ai 13 ans. Je vais au collège, là. Je vais en ping-pong.
Donc là, on a un deuxième Demorand sur l'antenne de France Inter.
Voilà, vous avez un deuxième Demorand sur l'antenne de France Inter.
Et pas timide, le garçon. Il est venu me voir.
Ping-pong à l'école ? J'ai compris.
Tennis de table.
Très bien. Ok.
Ça reste du sport.
Il n'y a pas la Formule 1.
Encore. Que fait l'éducation nationale ?
Même dans le 16e, même à Janson de Sailly, ils ne l'ont pas.
Bon, j'explique au fils de Nicolas Demorand notre concept.
Ok. Le Grand Prix, c'est la Formule 1. C'est F1, Charles Leclerc, Max Verstappen, tout ça.
Oula, tu connais, toi ?
Ouais, un peu.
On regarde la F1 chez les Demorand ?
Eh bah oui, figurez-vous qu'au repas de famille des Demorand, on regarde beaucoup les Grands Prix. Quand ça passe, on regarde, voilà.
Tradition de repas de famille le dimanche, c'est aussi ça que peut évoquer notre thème du jour. J'arrête cette jeune femme maintenant, elle porte une casquette d'une célèbre équipe de basket américaine. Les cheveux blonds en dessous, la veste en cuir, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Laura.
Laura, vous avez quel âge ?
J'ai 24 ans, je suis social media manager. Je travaille sur les réseaux sociaux, je m'occupe des réseaux sociaux d'une entreprise.
Laura, c'est une fan de F1 depuis Netflix, elle s'en cache pas. Un mot lui vient en lisant notre mot du jour.
Émotion. Quand on regarde un Grand Prix, c'est jamais juste des voitures qui tournent en rond comme on peut entendre parler certaines personnes, quoi. Je pense qu'on ignorait que c'était si bien et que c'était un sport qui était vachement réservé aux hommes et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui regardaient. Il n'y a pas de sexe approprié à un sport en particulier. Si les femmes veulent regarder le foot ou le rugby ou la Formule 1, elles le peuvent. Et il y a des femmes qui courent en Formule 4, donc ça c'est hyper cool et je suis contente que les femmes rentrent de plus en plus dans ce sport.
Vous savez comment on appelle les nouveaux fans de la Formule 1 ?
Non.
Les Formule X.
Ah, c'est ça, les Formule X. Qu'est-ce qu'elle en pense, Laura, de cette appellation ?
Oui, j'ai déjà entendu parler ça comme les Foot X. Écoutez, c'est un peu facile de s'attaquer aux gens qui viennent de découvrir le sport automobile cette année. Et que, voilà, je pense que quand on aime un sport, on aime le partager. Moi, je suis en train de le faire partager à ma sœur en ce moment. Et elle a regardé son premier Grand Prix ce week-end en commentant avec moi. Donc,
et alors ?
Et alors, elle a adoré, elle a vraiment adoré. Et je la traiterai pas de Formule X parce qu'elle vient de commencer.
Un grand prix entre sœurs, un grand prix au bout de la table des Demorand, un grand prix inoubliable d'il y a 30 ans. Tout le monde a un lien avec les grands prix. Un mot devenu international, mais un mot français à l'origine. C'est donc presque un comble que l'on fasse désormais partie de la liste des pays qui n'a plus justement son grand prix.
Ah, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, Quentin, et de dramatique. Effectivement, Julien Febrault est avec nous. Vous êtes la voix, je le rappelle, de la Formule 1 sur Canal+. Et Quentin vient de conclure en parlant du Grand Prix de France qui n'aura pas lieu cette année.
Non.
C'était inéluctable, ça, Julien ?
C'était pas loin de l'être, en tout cas, et ça l'est devenu. Effectivement, avoir une place au calendrier de la Formule 1, désormais, est chose compliquée. On atteint déjà un record de présence de Grand Prix. Il y a 23 courses cette année. C'est un record. Tous les pays ne peuvent pas accueillir de Grand Prix. Beaucoup souhaiteraient avoir cette place au calendrier. Ça coûte très cher, très très cher. Il faut aujourd'hui compter entre 25 millions et 40 millions pour accueillir une édition d'un Grand Prix, oui. Plus tout ce que ça comporte comme frais. Donc s'il n'y a pas une volonté, j'ai envie de dire, quasi étatique, c'est plus faisable. En France, les Jeux Olympiques arrivent à très grands pas, donc la concentration sportive va se focaliser sur les JO.
On n'a plus de flouze pour les Grands Prix.
Non, et puis il n'y a pas aujourd'hui cette véritable volonté, même si dans le sud de la France, Christian Estrosi, qui était à l'initiative du Grand Prix qui se tenait au circuit Paul Ricard jusqu'à l'année dernière, a, je pense, toujours cette envie autour de la ville de Nice de pouvoir accueillir un Grand Prix. Mais il faut la place, il faut les moyens, il faut l'envie du plus haut sommet. Et pour l'instant, tout ça n'est pas réuni.
On a entendu Hervé qui nous parle d'Ayrton Senna. J'ai l'impression que la mémoire collective est restée aussi bloquée sur cette époque. Pourquoi ?
Parce que c'était toujours mieux avant dans l'esprit des gens. Ouais. C'est nos Madeleines de Proust, c'est Senna, c'est un nom indissociable d'Alain Prost. Prost, c'est notre plus grand champion français de Formule 1. L'un comme l'autre sont indissociables. Effectivement, Senna est mort en légende parce que mourir dans le cadre de son activité, même si ça a un côté très glauque, vous devenez une légende. Et Senna est dans la légende, voilà.
Manon ?
On parlait de l'audience qui s'est très féminisée, mais oui. Là, reste quand même un sport très masculin, on y voit beaucoup d'hommes, même dans les écuries. Pourquoi il n'y a pas une femme qui a fait un Grand Prix depuis 92 ?
C'est une bonne question. Effectivement, c'est un sport mixte, il n'est absolument pas réservé aux hommes. Je pense que ça tient à plein de paramètres. Jusqu'à il y a peu encore, les femmes devaient se dire c'est pas un sport pour moi, parce que dans la conscience collective, c'était un sport de mecs, comme le football l'a été il y a très longtemps, et heureusement ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Donc beaucoup de jeunes filles ou de femmes regardent la Formule 1. Donc actuellement, des jeunes filles se disent je veux faire la même chose. Donc elles se mettent au karting en ce moment.
Il y en a en F4.
Et voilà, et elles montent les échelons. Il y en a en F4, il y en a au 24 heures du Mans.
Ouais, ouais.
Donc aujourd'hui, les Formule 1, oui, sont très physiques à piloter, mais il y a des femmes largement mieux préparées que des hommes qui n'auraient aucun souci.
Ça peut s'adapter.
Ça va arriver. Honnêtement, je vois pas comment ça n'arriverait pas, parce que ça y est, le travail mental a été fait aussi pour dire mais attendez, moi aussi en tant que femme, je peux piloter une Formule 1.
On continue à parler Formule 1 et Grand Prix dans Zoom Zoom Zen avec notre invité, la voix de la Formule 1 sur Canal+, Julien Febrault. On va notamment se demander pourquoi un sport qui émet autant de CO2 à rebours de toutes les tendances actuelles rencontre un tel succès. Juste après une pause musicale presque aussi mélodieuse que le ronronnement d'un V6 Ferrari, Gabriel's Offering sur Inter. Don't want your love and one no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you. You kill a mockingbird right. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. This thing was meant to be. Just get Zoom Zoom Zen spécial F1 aujourd'hui. Pourquoi ? Bah parce que ça faisait plaisir à Quentin, lui, et que moi, j'aime faire plaisir. Sauf quand vient l'heure du Zoom Zoom test. Là, j'aime punir. Avec aujourd'hui un quiz particulièrement vicieux, puisque pour chaque bonne réponse donnée par Quentin, son point ne sera validé que si notre invité Julien Febraud, qui le connaît si bien, parvient à répondre correctement à une question sur la vie de Quentin.
C'est très drôle.
C'est la petite subtilité dégueulasse du jour. Le thème de ce quiz, les innovations bannies en Formule 1. Attention, top. Nous sommes en 1976, Cyril Lacarrière a 29 ans et il suit assidûment la Formule 1, l'oreille collée au transistor à chaque Grand Prix. Lui seul dans notre équipe peut se souvenir de la particularité de la Tyrrell P34 qui signe de mirifiques chronos cette année-là. Ouais. Quelle était sa particularité ?
Je peux répondre sans proposition.
Non mais je vous donne les propositions, fermez bien votre gueule.
J'existe quand même dans ce quiz, merci Quentin.
Mais c'est Manon qui aura l'opportunité. Comme vous frimez, c'est Manon qui aura l'opportunité. Manon, écoutez-moi. Ah, elle avait deux moteurs, un sur le train avant, l'autre sur le train arrière, comme sur ma voiture. B, elle avait 6 roues. Ou C, elle avait la clim.
Ah, vous répondez pas, Quentin, du coup?
Non, c'est vous qui avez répondu.
Il m'a demandé de...
B.
Bonne réponse de Manon Mariani, elle avait 6 roues.
Allez.
Oui. Comme je l'expliquais encore à Lewis Hamilton l'autre jour, pour avoir un meilleur grip en virage, mon vieux, il faut plus de surface de contact du pneu sur la route. Mais des roues plus grandes freinent la voiture en ligne droite. Du coup, Tyrrell décide de dédoubler les roues avant. Elles sont désormais 4 et toutes tournent de concert. C'est génial. Mais si la Tyrrell P34 était plutôt compétitive, elle avait aussi son lot de problèmes, plus lourde, plus complexe. Elle était surtout pénalisée par des pneus moins performants, ce qui était un peu con. Elle fut définitivement interdite en 1983. Pas de question bonus donc, Quentin, puisque vous avez été nul.
Oui, c'est vrai.
Attention, top, nous sommes maintenant en 1977. Cyril Lacarrière a fêté ses 30 ans chez Michou. Mais même à 3 grammes, pas question de louper un Grand Prix. Son écurie préférée, et dont les ingénieurs sont vraiment polyvalents puisque leurs créations vont de l'automobile au papier toilette, Lotus. Parmi ces ingénieurs talentueux, un certain Colin Chapman. D'après vous, quelle innovation automobile on lui doit ? Les robes, les jupes ou les barésilles ?
Quentin ?
Ah ben non, bah allez-y.
Bah, non, allez-vous,
c'est moi d'abord.
Allez-y.
Oui, c'est vous, Quentin.
Les robes.
Oh. Non, c'est terrible parce que j'avais un quiz parallèle qui était excellent qu'on ne peut pas faire parce que vous êtes nuls. Les jupes.
Les jupes.
Et oui, c'est en 1977 qu'on découvre ce qu'on appelle l'effet de sol, une révolution aérodynamique qui plaque la voiture au sol et donc améliore largement les appuis de la monoplace sans trop la ralentir. Chapman se dit alors qu'en fermant les côtés de sa voiture à l'aide de jupes qui glissent sur le sol, il renforcera cet effet. Et il a raison puisque Lotus prend de l'avance sur ses concurrents avant que l'innovation ne soit interdite, elle aussi, en 1983. On reste dans les années 70. Justement, pour compenser l'innovation des jupes de Lotus et non pas des robes, l'ingénieur Gordon Murray de l'écurie Branham veut créer un système qui améliore aussi l'effet de sol. Pour ce faire, selon vous, de quoi a-t-il équipé la Braham BT46 ? D'un énorme aileron arrière ? D'un énorme ventilateur arrière ? Ou d'un énorme brumisateur arrière pour le confort du pilote l'été ?
B ? Non, c'est ça ? Je sais. B, B, vous me regardez tous.
Vous imaginez un ventilateur à la voiture ?
Ah, c'est le ventilo, le B ? Oui, bah oui.
C'est
oui,
ça que vous voulez dire ?
Oui,
ça,
oui,
ça,
bah je veux surtout que.
C'est une bonne réponse, Manon Mariani, oui. Prétextant que ce ventilateur sert en priorité à refroidir un radiateur, il améliore en fait largement les performances de la voiture. En effet, il aspire l'air sous la voiture et l'éjecte derrière, collant ainsi la voiture au sol. Et voilà, c'était le légendaire Niki Lauda qui avait remporté une course grâce à ce système. Enfin, attention, direction 1997, année charnière, puisqu'on perd les Didi, mais on gagne. All right. Manon.
J'ai peur de dire une bêtise, j'allais dire les boys soumen, mais c'est pas ça.
Manon vient de perdre 8 points d'un coup. C'est terrible, c'est Quentin qui prend la main dans le quiz. Mais il prend la main, mais il faut valider ses points, Quentin.
Ah, oui, oui,
question
oui.
Pour Julien Febrault. Julien Febrault, vous qui le connaissez par cœur. De quelle publication Quentin a-t-il fait la une dernièrement? Union, Automoto ou Lorne Hebdo?
Je serais tenté de partir dans l'Orne.
Orne Hebdo. Vous validez quelques points. On verra combien exactement.
Ouais, ça a l'air bien fou cette histoire.
On s'arrangera avec l'huissier de justice.
Donc Manon, c'était les Backstreet Boys qu'on a entendu tout à l'heure.
Ah oui, voilà. Pardon.
Et en plus, leur nom est dans la chanson. Mon ultime question est la suivante. En 1997, combien de pédales comportait la monoplace de David Coulthard, pilote de l'écurie McLaren? 3, parce que sur une voiture, il y a toujours 3 pédales. 2, parce qu'on venait de passer à la boîte de vitesse séquentielle avec palette au volant et donc plus d'embrayage, ou 4 pédales, parce qu'il était comme ça, David, il pouvait rien faire comme tout le monde.
Ah, il y a un piège.
B.
Il y a un piège, il y a un piège.
B, à ma droite.
Les 4.
4 pédales, oui. David Coulthard, l'homme aux 4 pédales, c'est d'ailleurs le titre de sa biographie. Non, ça aurait pu. Alors, 4 pédales, ça fait beaucoup, surtout à 340 km/h. En fait, en plus des pédales traditionnelles, il y avait une seconde pédale de frein qui ne jouait que sur les freins arrière. Julien Febrault, vous connaissez ces histoires?
Absolument. David Coulthard et Mika Hakkinen, qui était son coéquipier,
ils avaient
devenu champion du monde. Exactement, ils pouvaient, c'était très particulier, mais freiner des deux pieds. C'est-à-dire qu'ils avaient au pied droit le frein qui activait les freins avant et au pied gauche, les freins arrière, et donc ils jouaient tels des pianistes sur le pédalier pour répartir au pied la répartition de freins avant et arrière, et ce système de double pédale de frein a été interdit. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de freiner avec le pied gauche sur la deuxième de ces pédales de frein parce que la colonne de direction passait entre leurs jambes, donc ils ne pouvaient pas déplacer leurs pieds, donc il fallait utiliser. Ah oui, c'était très intelligent.
Alors, Quentin vient de marquer un point qui ne pourrait être validé qu'avec cette ultime question sur sa vie personnelle. Julien Febrault, vous qui le connaissez par cœur.
Il a bien répondu jusqu'ici.
Quelle est la chose la plus embarrassante qui soit arrivée à Quentin,
on peut pas le dire,
en reportage? Qu'un monsieur chelou oublie de remonter son pantalon pour l'interview, l'anecdote dite du slip jaune, que vous connaissez peut-être, ou qu'un garde du corps de Brad Pitt le propulse sans ménagement dans une benne à ordures du circuit des 24 heures du Mans alors qu'il était à ça de décrocher l'interview du siècle?
Vu son poids de jockey, je l'imagine volant dans la poubelle du circuit des 24 heures du Mans en tentant d'approcher Brad Pitt.
C'est une bonne réponse de Julien Febrault. Mais si, c'est une bonne réponse quand même.
Mais oui.
Évidemment, puisque la première est vraie aussi, malheureusement, l'anecdote du slip jaune, ça lui est arrivé aussi. Quentin?
Oui, vous voulez que je raconte l'anecdote du...
Non, on ne veut pas savoir. Je veux juste dire que vous n'avez pas validé le point. Et donc, c'est fini, c'est dommage. Le quiz se termine comme ça.
Mais je croyais qu'elle avait perdu 8 points tout à l'heure.
Non,
c'est la victoire de Manon. C'est dans Belgique.
Il était à ça des deux places pour Monaco. C'est vraiment dommage. Ça s'est joué à rien, Quentin.
Vous ne le saviez pas. C'était le cadeau caché du quiz. On parle...
Non, mais c'est pas drôle, par contre.
On parle de l'engouement pour la F1 cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec celui qui est la voix de la F1 sur Canal+, Julien Febrault. On a parlé des pilotes, on a parlé des voitures, parlons du patron. La F1 est maintenant dirigée par une entreprise américaine, Liberty Media, et on a déjà un peu parlé de ça depuis quelques années. Ce sport connaît un regain d'intérêt aux États-Unis. Comment ça se passe, les Grands Prix là-bas, le circuit de Las Vegas, avec des lignes droites là? C'est vraiment intéressant ça, ou c'est juste...
Alors, on va le découvrir cette année, puisque ce sera un nouveau Grand Prix qui arrivera en toute fin de saison. Ce sera l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Oui, ça a été racheté par des Américains. Le nombre de Grands Prix a triplé aux États-Unis. On a maintenant 3 Grands Prix, un à Miami, qui est déjà bien spectaculaire, bien VIP guest en tout genre. L'an dernier, Michelle Obama était l'invité là-bas, Michael Jordan, Tom Brady, enfin bref, le parterre était incroyable. Las Vegas, ça va être fou parce que ça se passera de nuit et la piste va véritablement être tracée sur le strip, donc devant les grands hôtels casinos. Donc le circuit va passer devant le Caesars Palace, devant le Bellagio.
Ça va être incroyable.
Alors oui, le circuit est composé, il est un peu, on va dire, rectangulaire, de longues lignes droites. Je pense qu'en qualification, c'est Hamilton qui le disait, ça va pas être passionnant en qualif. En course, ça va être dingue parce que ça va beaucoup dépasser. Il faut imaginer en pleine nuit, sous les néons de Las Vegas, des voitures à 350 km/h dans les rues de Las Vegas. Donc ça va être un show. Encore une fois, on parlait de l'effet Super Bowl que veut absolument produire Liberty Media. Avec Las Vegas, ils vont l'avoir.
Mais attention, Julien Febrault, parce que les nostalgiques comme moi aiment plus le Grand Prix de Monaco. Et il paraît, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire que le Grand Prix de Monaco a été sur la sellette à un moment. Est-ce que ça n'aurait pas de sens, un circuit de fin
France un Grand Prix aussi rigolo que celui de Monaco?
Alors, si historique, je ne sais pas s'il est rigolo, mais il est historique, ça c'est vrai. Les Américains de Liberty Media se contrefichent de l'histoire de la Formule 1. Eux, ils sont dans un business, ils sont là pour gagner de l'argent, ouais. Ce ne sont pas des philanthropes. Et Monaco a dû se plier aux injonctions et aux exigences de Liberty Media. C'est-à-dire qu'ils ont re-signé un contrat de 3 ans, mais en réaugmentant. Monaco payait beaucoup moins que les autres circuits à titre de Grand Prix historique. Liberty a dit, moi, l'histoire, on s'en fiche, donc maintenant vous payez comme
moins,
les autres.
C'est clair.
Non, mais ça a été très clair. Et le prince Albert II de Monaco a absolument tenu à sauver son Grand Prix coûte que coûte.
Un mot d'écologie, on est sur France Inter, c'est
oui,
important.
C'est important.
Les
absolument.
Émissions de CO2, quand on pense aussi à la logistique, tout le barnum oui. autour de chaque Grand Prix, oui. on n'est clairement pas dans un sport vertueux d'un point de vue environnemental et pourtant qui cartonne. Est-ce que c'est pas un sport pourtant à contre-courant de notre époque quelque part?
Alors, je connais aucun sport à diffusion mondiale qui soit vertueux, que ce soit le Tour de France, Roland-Garros ou la Formule 1, mais le seul argument que je puisse apporter en faveur d'un sport plus propre et aidant l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, la F1 va se tourner vers des carburants 100% synthétiques, donc plus issus du pétrole. Les moteurs aujourd'hui de Formule 1 sont des moteurs hybrides, donc à la fois des moteurs thermiques et électriques, et cette combinaison de puissance fait que ce sont les moteurs les plus efficients de la planète. C'est-à-dire que pour 1 litre de carburant utilisé, plus de 50% de ce litre sert véritablement à la propulsion du véhicule. Une voiture de tous les jours aujourd'hui sur la route, c'est peut-être 20%. Donc on a des moteurs en F1 qui vont inspirer les moteurs qu'on retrouvera dans les
c'est
voitures.
C'est ça, ça reste un laboratoire
oui,
pour
totalement.
Nos voitures.
Le Mans a été un laboratoire et l'est toujours. La Formule 1 est un laboratoire également. Les carburants synthétiques, les meilleures efficiences, c'est quand même ça qu'on peut opposer aujourd'hui à ceux qui disent ouais, c'est 100% noir comme sport, non, pas totalement.
Quentin ?
Je reviens sur vous, Julien Febrault. On peut voir sur vos réseaux sociaux que vous pilotez également en rallycross, sur la glace du Trophée Andros. Vous rêviez vous-même d'être pilote ?
Oui, alors j'ai été évidemment enfant passionné par le sport automobile et j'ai rêvé d'être pilote. J'ai très vite compris que ça n'était pas possible. Donc je ne suis pas un journaliste de sport automobile frustré de ne pas avoir été pilote. Mais
qu'est-ce que ça apporte dans vos commentaires justement ?
Ah, honnêtement, moi ça m'apporte beaucoup parce que de vivre les sensations d'une course, d'être au départ d'une course, même si c'est de manière amateur, ça vous fait ressentir des émotions qui, au moment où vous vous retrouvez à l'antenne à commenter un Grand Prix, lorsque vous assistez à une scène, lorsque vous voyez un pilote réagir, soit dans une grande déception d'une défaite ou d'une grande joie d'une victoire, j'ai eu l'occasion de ressentir ça encore une fois à mon petit niveau, mais les mots, je pense, me tombent un peu mieux à ce moment-là.
Il y a la Formule I aussi, oui. La Formule 100% électrique. Est-ce qu'à terme, la Formule 1 pourrait devenir 100% électrique? Ou ça, c'est encore un grand tabou?
Non, c'est pas un tabou. Je crois pas que la Formule 1 ait vocation à devenir 100% électrique. Elle a vocation à devenir écologiquement beaucoup plus propre. Mais la Formule I et la Formule I, elle est 100% électrique. Je pense pas qu'il faille comparer les deux disciplines. Mais en tout cas, la F1 est en train de faire un pas énorme vers beaucoup moins d'émissions de CO2.
Même si vous vous demandez un peu ce qui se passe cet après-midi et pourquoi on parle Formule 1, je vous confirme que vous êtes bien sur France Inter. Dans quelques instants, à défaut de nous retracer le palmarès des champions de Formule 1 suisse, qui est court, voire nul, Yann Marguet nous dira ce qu'il pense de cet engouement général pour la F1. Mais d'abord, vous savez maintenant que si vous dites « il y a R » ou « c'est ma passe », c'est à elle que vous le devez,
non,
à elle seule. Car elle est en charge de l'invention des mots et des expressions à l'Académie française. Manon Mariani, j'espère qu'il n'est pas abusax de vous demander ce qui agite les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que j'apprends? Vous nous parlez aujourd'hui d'une application de rencontre. Manon, encore? Vous êtes vraiment insatiable.
Non, Mathieu, vous allez voir, cette fois-ci, c'est différent. Je vous parle des applications de rencontres amicales. Et oui, des Tinder de l'amitié, ça existe. Alors ça fait sourire dit comme ça, mais ces applications peuvent se révéler être très importantes et nécessaires pour des gens qui souffrent de solitude. En France, il y en a beaucoup. Selon une étude de l'IFOP, plus d'un Français sur 5 souffrirait de solitude chronique. La crise sanitaire n'a pas aidé, évidemment. Il y a 3 millions de Français supplémentaires qui souffrent de solitude par rapport à la période de 2020. Et la catégorie d'âge la plus touchée est évidemment celle des moins de 25 ans, des jeunes qui ont été privés de la joie du début de la vingtaine, ce moment où l'on arrive à la fac, où on découvre le monde adulte et surtout où l'on se fait plein de potes. Du coup, ce manque de sociabilité a créé des besoins, d'où l'arrivée des applications de rencontres amicales.
Mais c'est un peu niche quand même. Comme
alors, ce n'est pas autant mis en avant que Tinder et compagnie, mais il y en a quand même beaucoup. Meetup, Patouk, Vingle, Nock, Youbo et j'en passe. Alors, même si les noms ne donnent pas envie comme ça, il y a donc l'embarras du choix. Alors, la plupart ne se décrivent pas comme des applications de rencontres amicales. amicale, hein, de peur sûrement de ressembler à ça.
SOS Détresse Amitié, bonjour.
Voilà, elle mise sur l'appellation réseau d'intérêt, car c'est le but de ces applications, trouver des amis avec qui on partage aussi des points communs, comme dans la vraie vie. Alors, niveau fonctionnement, on retrouve aussi le principe du swipe, mais là où les applis de rencontres amoureuses misent énormément sur les photos et la description physique, celles pour se faire des amis, pas du tout. Au contraire, les utilisateurs écrivent plutôt des longues descriptions de leur vie, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils recherchent chez quelqu'un. Certains ne mettent carrément pas du tout de photos d'eux. Bon, dans ce cas, faut quand même rester vigilant.
Mais est-ce que ça marche ?
Écoutez, en tout cas, de plus en plus de gens en parlent, dont ça se démocratise. L'une des premières applications à s'être lancée dans ce business s'appelle Meetup. Elle a été créée en 2002 et compte plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Tinder est à 50 millions, donc il y a une différence certes, mais pas énorme non plus. Et puis c'est pas nouveau, le sexe attire toujours plus. Mais le concept de Meetup est celui le plus sympa à mes yeux. En gros, l'application nous localise, il faut sélectionner ses centres d'intérêt et ensuite on peut intégrer des groupes qui proposent des activités à faire ensemble. Exemple, aller à un cours de poterie le jeudi à 19h30. Bref.
Sexy. Oh,
sympa. Au moins, ça fait sortir les gens chez eux. Voilà. En tout cas, le concept des rencontres amicales plaît puisqu'il a été repris par les mastodontes des applications d'amour. Tinder propose une option pour se faire juste des amis. Bumble, pareil. Raya, l'application de rencontre des stars aussi. Ça peut donc aider des gens qui sont timides ou qui ont des phobies sociales. Nouer le contact sur Internet peut leur permettre de se mettre en confiance pour ensuite rencontrer des gens. En tout cas, si ça peut être un remède à la solitude de certains, moi je dis oui.
Merci beaucoup Manon et on comprend enfin comment Quentin a rencontré Julien.
C'est vrai.
Vous en dites trop, vous en dites trop. N'en disons pas plus. Écoutons plutôt Yoa, Paroxétine sur Inter.
Cerveau cassé, mort dedans, tout abîmé, cœur adolescent. Cerveau blasé, qu'est-ce que tu prends? Vitamine D, qu'il pleuve.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Les plus grands pilotes de Formule 1 ne sont pas suisses, mais ils vivent en Suisse. C'est exactement l'inverse des humoristes. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu, nous parlons donc aujourd'hui de Formule 1. La Formule 1 avec l'accent tonique sur le O. J'insiste un peu là-dessus parce que si on le met sur le U, ça devient la Formule. Et là, tout de suite, hop, on est sur une commande de Marc-Olivier Fauger de chez Flunch. Hein. Bonjour, hein. Je vais prendre la Formule et c'est pas du tout le même univers, quoi.
Je t'interdis voilà, d'imiter Marco.
Donc, la Formule 1, hein, ce sport automobile, né dans les années 50 pour les fans de Formule 1. Et en 2018, pour moi et tous les autres cons qui ont eu besoin que ça devienne à Starac pour s'y intéresser. Mais ça marche, quoi, ça marche. Hein. 4 ans maintenant que je regarde Formula 1 Drive to Survive sur Netflix. Alors bon, Drive to Survive, hein, disons que si vous êtes un jour un raout avec quelqu'un qui a comme nom de famille Senna ou Bianchi, évitez quand même de trop le dire, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en VF, comme sous-titre, à la place, ils ont mis Pilot de leur destin, ce qui est quand même beaucoup plus honnête. Hein. C'est vrai que si ton destin, c'est un mur, tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. Alors, j'ai pas commencé la saison 5 qui vient de sortir encore. Mais bon, je vois somme toute déjà assez bien ce qui va se passer. Hein, déjà parce que c'est la seule série que les journaux n'ont. Mais aucune honte à spoiler. Hein. T'es là, tu bois un café, ton téléphone sonne, t'es en train de causer machinalement, tu regardes, c'est un push, et bah voilà, Max Verstappen est champion du monde. Bah super, bah merci, quoi. Allez, bah, quoi d'autre hein, push du monde diplomatique, Jon Snow a ressuscité. Mais oui, tant qu'on y est. Et puis en plus de ça, bon, chaque année, c'est un peu le même pattern, quoi. Un premier épisode, t'as toujours l'autre con chez Haas, là. L'équipe la plus naze du championnat, qui nous dit que this year, without rival, we really have a good chance to win multiple races. Et au dernier épisode, tous ses pilotes sont morts. Il veut faire fabriquer ses moteurs par SpaceX. Et il pense plus qu'à embaucher Yoshi et Wally parce qu'ils vont vite à Mario Kart. Comprenez-moi bien, hein, j'adore les intrigues, mais faut avouer que ça consiste beaucoup à regarder les mecs qui disent qu'ils vont gagner et qu'au final gagnent pas. Hein, pour la plupart, c'est pas très complexe. Non, le plus dur, je dirais, à suivre, c'est peut-être le nom des équipes. Hein, ça change tout le temps, quoi. Renault qui devient Alpine, Toro Rosso qui devient AlphaTauri, et les pires, Racing Point qui devient Force India puis qui redevient Racing Point pour finalement devenir Aston Martin en 2021. Niveau changement de nom, on dirait Christine and the Queens. Mais... saison prochaine, faudra qu'on les appelle Fabrice, on saura même pas pourquoi. Enfin, j'ai pas trop craché sur la F1 parce que bon, on a quand même une légende dans le studio. Alors, pas un pilote, évidemment. Hein. Ça reste Zoom Zoom Zen. Mais quand même, Julien Febro, commentateur iconique de la F1 sur Canal, donc célèbre, dont le célèbre Accélère sur la victoire de Pierre Gasly à Monza, au Panthéon des grandes phrases du journalisme sportif français, hein, aux côtés de On peut mourir tranquille de Thierry Roland, du Passage inédit de Gilardi, ou encore de Ce sera ta parole contre la mienne de Pierre Ménès. Et puis bon, accélère. Ah, c'est vrai que c'est vraiment une phrase de pro, quoi. C'est pas du tout ce que n'importe lequel d'entre nous aurait dit en regardant la course. Donc, bravo Julien. J'espère que vous êtes prêts pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite du 19 mars. C'est vrai que ça prend tout son sens là-bas. Hein. C'est un peu comme une étape de la Coupe du Monde de ski en Suisse. Le pétrole et le fric, c'est un peu l'équivalent de la neige pour les voitures de course. En plus, en Arabie Saoudite, c'est comme en Formule 1. Techniquement, les femmes ont le droit de prendre le volant, mais on préfère pas, quoi. Et bravo à Netflix, aussi à Liberty Media, quand même, le propriétaire de la F1, d'avoir réussi à m'intéresser à un sport de jacky, alors que j'ai même pas le permis. J'ai trouvé ça chiant, beauf et pas éthique la majeure partie de ma vie. Moi, j'ai foutu un peu de drama dans ce bazar, des collabs avec des maisons de couture et Cara Delevingne en tribune. Et en 4 ans, j'ai tout oublié. Alors, à ce stade, je sais toujours pas si j'aime vraiment la F1, mais en tout cas, le marketing, ça cartonne.
Merci Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, dans Zoom Zoom Zen, et toujours en spectacle à la Scène Libre à Paris jusqu'au 31 mars. Ouais. Il me reste donc 23 jours pour venir vous voir et ne pas ruiner une belle amitié qui vient seulement de commencer entre nous. En parlant d'amitié, on va laisser Julien Febro refaire le monde avec son poteau Quentin Lui. Julien, dernière question Formule 1 qui m'obsède, ou alors c'est Cyril qui me l'a écrite, je sais plus. Uh-huh. Hamilton peut-il gagner un 8e championnat du monde et battre le record de Schumacher?
En tout cas, il va essayer le plus longtemps possible. Je pense qu'il refusera de quitter la F1 tant qu'il n'a pas son 8e titre.
Merci encore Julien Febro de nous avoir raconté les coulisses de la Formule 1. Merci à tous. Manon Mariani, Cyril Lacarrière, votre meilleur ami, que dis-je, votre frère Quentin Lui, à la réalisation. Il avait menacé de se mettre en grève sous prétexte que la F1 c'est un sport de Bourges. Il est quand même venu et on l'en remercie. C'était Ghislain Fontana. Merci à Anne-Laure Cochet à la technique, Alexis Alacour, à Amel Caldi à la programmation. Sans oublier notre stagiaire Raphaël Canzan qui a su relever la tête après la défaite de son club de cœur, le PSG, pour continuer malgré tout le travail après l'humiliation munichoise. Bravo à tous. Zoom Zoom Zen revient demain en mode florilège et lundi en direct pour de nouvelles aventures. Alors rendez-vous lundi, 16h.